c'est même ce qui est assez fascinant dans le Polar Lys, c'est que c'est finalement le premier roman qui s'inspire de son propre vécu. Alors bien sûr, dans ces romans populaires, il y a toujours des bouts. On retrouve dans un ou deux romans en filigrane sa relation avec Joséphine Baker ou des choses comme ça. Là, ce qui est passionnant, c'est que il a vraiment fait la croisière sur le Polar Lys et qu'il en a même tiré une suite de reportages. Et que quand on lit le reportage en question, qui s'appelle Escale Nordique, qui a été prépublié dans un quotidien de l'époque, on s'aperçoit, on croise tous les personnages qu'on va retrouver dans le roman. Alors, dans des rôles qui peuvent être différents, bien évidemment, mais le profil de chacun des personnages rencontrés dans le reportage, on les retrouve dans le roman. Que ce soit Krull, le soutien, Krull d'ailleurs, c'est le nom aussi de Germaine Krull, la fameuse photographe avec laquelle Simenon va inventer d'une certaine manière le roman photo avec la folle d'Hitteville, Petersen, le directeur de l'usine. Le second, le jeune homme qui fait sa première traversée et qui s'avère à avoir été le fiancé entre guillemets de sa petite Normande qui suit le couple Georges et Tigy un peu partout dans ses pérégrinations. Et donc c'est ce qui fait, je crois, la grande grande qualité du Passager du Polar Lys, c'est que c'est le premier roman sur lequel Georges Simenon mange sur lui. Et effectivement, vous avez raison de souligner Montparnasse. C'est avant de monter en croisière sur le Polar Lys et de faire le tour des côtes du Nord à bord de son propre bateau, l'Ostrogo, il va hanter les nuits de Montparnasse. Il croise Manet, Kiki de Montparnasse, Fujita, Paul Colin, Joséphine Baker, bien évidemment. Donc c'est aussi une ambiance, une atmosphère qui connaît par cœur. C'est d'ailleurs l'intérêt aussi d'arriver à faire contraster ces deux ambiances qui sont directement issues de la vie de Simenon. En réalité, cette scène à Montparnasse, dans le roman, arrive au milieu du roman. Et elle arrive sous une forme bizarre, c'est que le capitaine Petersen trouve un journal français, lui qui a jamais quitté la Norvège, dans lequel toute cette histoire est racontée. Sauf que moi, en tant que scénariste, ayant tablé sur le fait qu'avec Christian Caillaux, il allait nous faire partir de Hambourg jusqu'au Cap Nord, qu'on allait s'enfoncer dans la neige, le blizzard et les icebergs, et tout à coup, d'un point de vue narratif, je ne pouvais pas me permettre qu'à la page 30, on se retrouve avec un flashback. Parce que ce qui marche en roman, parce que tout est gris, ce sont des mots les uns derrière les autres, en visuel, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que tout à coup, on allait avoir une rupture d'atmosphère qui allait ruiner tous les efforts de Christian Caillaux pour nous faire croire à cette croisière. Donc tout le travail, ça a été de transposer ce qui est censé être un article dans un journal, de le transformer en, tout simplement, dans l'introduction de la bande dessinée. Donc ça, c'est la chose qui a été complètement, qui a bouleversé un peu l'ordre de la narration de Simenon, avec l'accord évidemment de John Simenon, parce que très vite je lui ai dit, j'ai élevé un lièvre dans le scénario lui-même. Une fois que c'est mis à plat, on ne peut pas se permettre tout à coup de se retrouver coincé, de revenir à la folie de Montparnasse au milieu du récit maritime. Il se trouve aussi que je crois, étant donné la façon dont travaillait Simenon, c'est qu'à un moment donné, Simenon, à l'époque, il a pour modèle, entre guillemets, Agatha Christie. C'est-à-dire que les romans à mystère, les romans de devinettes ou qui a tué qui sont les best-sellers de l'époque. Et sans doute, Morsure de l'Nil va être écrit plus tard, mais sans doute qu'il y a la volonté chez Simenon de se lancer dans ce type de roman. Mais comme il écrit au jour le jour, il y a un moment donné, il est bien obligé de se dire, bon, alors attends, là, ouh, là, qu'est-ce que je fais? J'en suis où? Tiens, je vais essayer d'inventer un truc qui va permettre de faire rebondir l'action. Et c'est pour ça, je pense que la séquence de Montparnasse n'arrive qu'au milieu du roman. Tout simplement parce qu'il est en train d'inventer au fur et à mesure, parce que c'est ça sa méthode. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de voir, c'est aussi pour ça que c'est vraiment le roman du passage entre le roman populaire et puis le roman dur, c'est qu'il est, il commence comme une sorte d'Agatha Christie, de roman à devinette, et puis très rapidement, parce que les personnages qu'il met en scène sont des personnages qu'il a croisés, sur lesquels il a fantasmé, etc. La psychologie des personnages va mener l'histoire. C'est-à-dire, ce n'est plus le scénario qui mène les personnages, mais c'est les personnages qui vont mener l'histoire. Et là, c'est pour ça qu'il y a un moment de torsion dans leur roman et dans la bande dessinée aussi, qui fait que c'est les personnages qu'on va suivre et que finalement le mystère à dévoiler, qui va être dévoilé, bien évidemment, et nous n'allons pas le spoiler, a moins d'importance que le destin qui s'accomplit de chacun des personnages.